Climate Tech Back, ou comment devenir une entreprise régénératrice. Une émission en partenariat avec Interface.
Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Climate Take Back, une émission proposée par Radio Immo, Radio Territoria et Interface. Alors, on va commencer malheureusement avec des nouvelles pas très intéressantes, si, mais un petit peu alarmantes. Le dernier rapport du GIEC, qui date de février 2022, confirme l'accélération des conséquences du changement climatique. Il est plus que jamais temps d'agir, de réagir au niveau individuel, comme au niveau des organisations, principalement des entreprises. Mais comment inverser la vapeur, changer ses modes de fonctionnement, de production, d'organisation, afin de devenir une entreprise plus vertueuse? Comment devenir même une entreprise régénératrice? C'est ce que nous allons voir avec nos deux experts. Je suis ravi d'accueillir Laetitia Boucher. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Vous êtes responsable du développement durable Europe du Sud chez Interface. Et en face de vous, eh bien, Christophe Rodriguez. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint à l'IFPEB, c'est l'Institut français pour la performance des bâtiments. Et justement, eh bien, nous allons découvrir vos deux organisations. On commence, tiens, avec l'IFPEB, une association qui a déjà plus de 10 ans d'existence, près de 200 acteurs dans le secteur de l'immobilier, de la construction. Racontez-nous exactement ce que fait l'IFPEB, Christophe.
Tout à fait, on commençait avec une nouvelle un petit peu alarmante. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions et des acteurs qui sont d'ores et déjà en marche pour lutter contre le changement climatique. L'IFPEB est une alliance d'acteurs économiques de la construction et l'immobilier qui ont pris la décision de réunir leurs compétences, leur savoir-faire pour accélérer la reconfiguration des marchés, la transformation de leurs pratiques et accélérer ainsi la transition environnementale. On travaille à l'accompagnement des nouvelles pratiques de l'immobilier et de la construction, l'économie circulaire, on va en parler aujourd'hui, le bas carbone, la sobriété énergétique, tout un tas de sujets d'actualité.
Voilà, et puis également comment accélérer la décarbonation sur les matériaux et cette
tout
fameuse sobriété. Laetitia Boucher, un petit mot d'Interface. Vous êtes déjà venue, évidemment, mais on ne se lasse pas de cette belle aventure, de cette belle histoire d'Interface qui a décidé, alors justement, je le disais complètement, d'inverser la vapeur. Racontez-nous ce que fait Interface et l'engagement, notamment, de votre CEO, de votre patron.
Donc, on est fabricante de sols modulaires. On fabrique à la fois de la dalle de moquette, du PVC et du caoutchouc plus récemment. L'aventure a commencé en 1994 avec une question d'un de nos clients qui nous demandait ce qu'on faisait pour l'environnement. À l'époque, on n'avait aucune réponse, mais la question est remontée au CEO, Ray Anderson, de l'époque, et qui, lui, a eu vraiment envie d'apporter une réponse. Et bon, je ne vais pas vous raconter toute la genèse, mais toujours est-il qu'il a décidé que d'ici 2020, son entreprise n'aurait plus aucun impact sur l'environnement. Donc, je rappelle, c'était en 94.
Donc, il y a une vision quand même à 25 ans.
Exactement, oui. Une vision long terme, ce qui est plutôt rare. Et du coup, il a vraiment décidé de changer totalement son business model, c'est-à-dire de passer d'une économie dite linéaire, j'extrais, je transforme, je jette, à une économie circulaire. Et pour ça, il s'est beaucoup inspiré de ce que fait la nature. Dans la nature, tout se transforme, tout est réutilisé, réemployé. Il n'y a pas de déchets. Et ce, avec une très grande sobriété. Donc, on voulait vraiment fonctionner de cette manière.
Voilà, avec des missions, mission zéro ou mission war on waste, la guerre au gaspillage.
Exactement, oui, ça a commencé comme ça, où on a cherché des solutions en interne, donc on a mobilisé, on a commencé d'abord par former nos salariés, parce que c'est en expliquant ce qu'on essaye de faire, qu'on devient acteur en fait par la suite, on peut agir. Et du coup, on a lancé un premier programme qui était effectivement war on waste, à savoir qu'on a mobilisé tous les salariés pour savoir ce qu'ils faisaient, quelles solutions ils pourraient apporter pour éviter toute déperdition.
Et ça a tellement bien marché que l'objectif finalement a été atteint dès 2016, c'était il y a 6 ans déjà.
Oui, en fait, en 2016, effectivement, on savait qu'on allait atteindre notre première mission. Du coup, on s'est demandé ce qu'on faisait derrière. À savoir que cette première mission, on était plutôt dans l'adaptation au changement climatique. Et la seconde allait répondre à, malheureusement, l'urgence dans laquelle on se trouve. Donc, répondre à l'urgence climatique. Donc, on va viser au-delà de la neutralité. On va essayer d'avoir un impact positif sur les écosystèmes pour préserver et régénérer nos climats.
Et c'est là où l'initiative Climate Tech Back, donc, est en train de... a pris forme, finalement.
Exactement, oui. Avec un gros focus, on va continuer notre mission zéro, donc essayer d'avoir aucun impact sur l'environnement, sur les émissions qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui, mais on a un plus gros focus sur tout ce qui est carbone, climat, biodiversité.
Une question justement déjà sur cette première milestone, on va dire, beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, donc cette première étape, au niveau des quelques chiffres tiens, sur la réduction des émissions, réduction en eau, tout ça, ça a été vraiment divisé par 3, par 5, par 10.
Oui, rapidement, on a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos usines, donc de nos 5 sites de fabrication de 96%. On utilise de l'énergie renouvelable à 100%, en tout cas en Europe, et à 90% au niveau mondial. Il y a des contrées où on n'arrive pas encore à trouver, en tout cas, du gaz issu de biomasse. Et puis, on a réduit l'utilisation de l'eau de 88% dans nos process. Aujourd'hui, parfois, avec l'évaporation, on est obligé d'en remettre, mais aussi pour les sanitaires, etc. Mais sinon, on fonctionne en circuit fermé. Et enfin, on travaille sur l'utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés. Donc, on va travailler à la fois sur des déchets d'autres industries ou des matériaux recyclés. Et du coup, aujourd'hui, on a une moyenne de 62% de matériaux recyclés et biosourcés dans nos dalles de moquette, ce qui nous a permis de réduire l'empreinte carbone, enfin tous ces effets combinés, de 76% de nos dalles de moquette, ce qu'on appelle cradle to get, donc de l'extraction de matières premières à la porte de l'usine.
Christophe Rodriguez, voilà un bon exemple d'une entreprise qui s'est engagée et qui a atteint, voire dépassé ses objectifs. Est-ce que c'est un modèle ? Est-ce que c'est un exemple pour les autres qui font partie de l'association de l'IFPEB ?
Oui, tout à fait. En fait, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, sans faire trop d'histoire, en fait, il y a à peu près 40-50 ans, on a vécu le premier choc pétrolier. Et on s'est rendu compte que l'énergie n'était pas illimitée, n'était pas une ressource illimitée. Et donc, on est rentré dans une grande reconfiguration des pratiques et on a appris tous ensemble l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, 40-50 ans après, quel fournisseur d'énergie, donc qui vous vend de l'énergie, ne va pas vous proposer de vous aider en économiser ? Ça paraît complètement fou de se dire que quelqu'un qui vous vend du kilowattheure va vous aider lourdement à ne pas lui en acheter. Mais là, on est en train de vivre un peu le même type de reconfiguration. On l'a vécu fin d'année dernière, encore actuellement, avec la pénurie des matériaux. On est malheureusement en train de vivre aussi l'équivalent d'un choc pétrolier. Je crois que c'était Bruno Le Maire la semaine dernière qui parlait d'un nouveau choc pétrolier.
Tout à fait.
Et on se rend compte que progressivement, on va accélérer des nouvelles pratiques, des nouvelles approches d'industriels comme Interface, comme un certain nombre de membres de l'IFPEB, des gens qui anticipent un peu cette reconfiguration des marchés. Et aujourd'hui, on se rend compte que peut-être que demain, des fournisseurs de matériaux nous accompagneront pour leur acheter moins de matériaux. Donc là, on sera sur des notions, par exemple, de réemploi et Interface développe ce type de solution.
Mmh. Ou encore ce mot de sobriété qui intervient de plus en plus, on va en parler. Juste une question avant de continuer. Laetitia Boucher, une question qu'on se pose, c'est cet effort finalement de la part de votre entreprise, est-ce qu'il est économiquement viable ?
Oui, sinon on ne serait plus là, puisque ça fait 27 ans qu'on s'est mis qu'on a décidé de faire cette transition. Vous l'avez très bien cité au début, War on Waste nous a permis d'éliminer et d'éviter toute déperdition, y compris sur nos matières premières, c'est-à-dire qu'on a redessiné nos produits pour utiliser moins de matières premières en gardant les performances, mais aussi on a fait des économies d'énergie, d'eau, etc. Et du coup, toutes ces économies-là nous ont permis d'être très rapidement rentables et rentabiliser les investissements qu'on avait pu faire à l'époque. Et puis après, sur 27 ans, forcément, ça se lisse. C'est vraiment l'atteinte de la mission qui a conditionné toute l'innovation et qui a conditionné tous les investissements. Donc, effectivement, c'est rentable. Sinon, on est coté. Donc, sinon, on ne serait plus là, je crois.
Et en plus, on sait qu'aujourd'hui, c'est même demandé par vos clients. C'est-à-dire, ils vont aussi, peut-être qu'avant, on était moins regardant, il y a encore une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on va regarder effectivement la production, on va regarder ce qu'on met sur ces sols, bien évidemment. Oui. Du coup, vous avez un avantage. Vous avez transformé cette contrainte, finalement, contrainte imposée, pour le coup, en une opportunité.
Exactement. Et en même temps, on a embarqué, c'est l'effet rebond, on a embarqué l'ensemble de la filière avec nous. C'est-à-dire que, en diminuant notre empreinte, on a permis aussi à nos confrères d'accéder à nos innovations, à nos avancées, et du coup aussi à réduire leur empreinte écologique.
Mmh. Donc, 94, cette décision forte de la part du CEO Ray Anderson, zéro impact sur l'environnement à peu près bouclé en 2016, et puis nouvel objectif, devenir une entreprise régénératrice d'ici 2040. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise régénératrice ?
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment essayer d'aller au-delà de l'empreinte neutre, comment contribuer de manière positive aux écosystèmes. Pour y parvenir, on s'est fixé comme objectif ultime d'être négatif en carbone, à la fois sur nos opérations, nos services et nos produits. d'ici 2040. Et pour ça, on va faire appel à, par exemple, la séquestration carbone, c'est-à-dire prolonger le carbone qui a été séquestré, par exemple, par des matériaux, par des végétaux, donc via la photosynthèse, prolonger dans les produits cette séquestration carbone et éviter qu'elle soit réémise trop rapidement dans l'atmosphère.
Christophe Rodriguez à l'IFPEB, vous travaillez bien sûr sur des problématiques qui résonnent, qui sont communes, hein, notamment avec l'irruption de cette RE 2020, réglementation environnementale. C'est ça, hein, c'est plus simplement thermique, on était passé de RT 2012 à RE 2020. Qu'est-ce que ça va changer justement? Comment l'anticiper et comment ça va se concrétiser pour les entreprises?
Oui, tout à fait. Depuis le 1er janvier 2022, donc la RE 2020, la nouvelle réglementation thermique qui est devenue environnementale, est entrée en vigueur. Et une fois n'est pas coutume, comme chaque nouvelle génération de réglementation thermique, on a une boîte à outils réglementaire qui évolue. Aujourd'hui, il y a deux grandes innovations qu'il faut avoir à l'esprit dans la RE 2020. La première, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est le renforcement de la prise en compte des problématiques de confort d'été, avec des canicules de plus en plus significatives. Le deuxième, qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est l'intronisation de la métrologie. On va compter le carbone. Donc on va comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre, en l'occurrence le carbone, dans les bâtiments, et on va se donner des seuils qui vont être progressifs et qui vont épouser une trajectoire avec une ambition nationale, internationale, d'atteindre la neutralité en 2050. Donc la RE 2020 va épouser cette ambition et va introniser une méthodologie de calcul des impacts carbone qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, l'ACV. L'ACV, c'est quoi? De façon assez simple, en fait, on va faire un inventaire de flux. Par exemple, si on prend un revêtement de sol, on va se poser la question, étape après étape, des différents flux. Donc par exemple, je vais chercher des matériaux dans une montagne, je les amène sur un site industriel, ensuite je fabrique les revêtements de sol, je les amène dans le bâtiment et puis à chaque étape, je comptabilise des potentiels gaz à effet de serre et ça me permet d'avoir la valeur de carbone potentiel qui a été émise par ce matériel qui a été installé dans le bâtiment.
Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'extraction jusque finalement au recyclage à la fin de vie. Hein.
Oui, exactement. Oui.
L'anglicisme de nouveau, from cradle to grave, c'est-à-dire du berceau au tombeau.
Au tombeau, exactement.
Voilà. Alors c'est nouveau, cette analyse du cycle de vie, elle pose quand même pas mal de sujets. Comment on fait pratiquement? Est-ce que justement il y a des normes aujourd'hui qui existent déjà, des mesures qui sont en place? Vous parliez, Christophe, de boîte à outils. Est-ce que c'est déjà normé ou est-ce que le chemin se fait un petit peu comme ça, voilà, est-ce qu'il est en cours actuellement?
Oui, tout est normé. En fait, l'analyse de cycle de vie est normée. Et en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'analyse de cycle de vie va être la concaténation de données élémentaires qui sont l'ensemble des matériaux. Par exemple, si on prend les matériaux, l'énergie grise, qui ont été mis en œuvre dans le bâtiment. Donc, il y a une norme internationale qui va régir en fait la comptabilisation de ces impacts. Et on va sommer en fait l'ensemble des impacts de tous les matériaux. Voilà pour répondre à votre question. Après, il nous reste beaucoup de chemin encore à parcourir. Pourquoi ? La première chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les industriels n'ont pas forcément fait la démarche de faire la déclaration environnementale des impacts de leurs matériaux. Donc lorsqu'un maître d'ouvrage va se lancer dans la RE 2020 et va vouloir comptabiliser ses impacts, lorsqu'il choisit un matériau qui n'a pas cette déclaration, il va devoir piocher dans une donnée un peu par défaut qui va être majorée, donc ça va être un peu pénalisant pour le maître d'ouvrage. Donc il nous reste encore du chemin à faire pour massifier la disponibilité des données et puis fiabiliser, stabiliser cette méthodologie qui aujourd'hui est bien normée, hein, ça fait de nombreuses années qu'on y travaille, mais en tout cas il y a encore un chemin de structuration à faire pour faciliter la vie de tout le monde.
En écoutant Christophe, on se dit effectivement il y a plusieurs enjeux. Un des enjeux, c'est cette data chez Interface. Comment vous la traitez, vous la collectez? On sait, on dit que la data, c'est le nouvel or noir. Voilà, il y aura plus de pétrole, il faut de la data. Comment ça se passe chez Interface?
Effectivement, nous on a commencé en fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et c'est notamment celle des produits. On a commencé dès 96 à se référer à nos émissions carbone et donc à pratiquer ce que Christophe a très bien expliqué, l'ACV sur nos produits, ce qui permet de savoir très rapidement où sont vos impacts et où vous allez pouvoir agir pour diminuer. On la collecte de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va demander à nos fournisseurs de nous fournir soit eux également une EPD, donc une déclaration environnementale produit, soit on va réussir à estimer ce que ça émet, et ensuite on va, pour chaque étape du process de l'analyse du cycle de vie, donc de notre produit, à chaque étape de sa vie, on va soit estimer, soit déclarer ce qu'il va émettre.
Donc on a cette donnée individuelle qu'il faut créer et normer, et puis aussi il y a le respect de la règle sectorielle PCR, alors attention, rien à voir avec d'autres acronymes, c'est Product Category Rules. Expliquez-nous ce que c'est que cette règle sectorielle, Christophe.
Vous voyez, quand on fait une analyse de cycle de vie, ou plus particulièrement une déclaration d'un produit, une fameuse EPD, donc déclaration environnementale de produit, donc en France on appelle ça les FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, il y a des règles du jeu. Les règles du jeu sont sectorielles. En fait, l'idée c'est de baliser au maximum les hypothèses et les données d'entrée qui vont être faites dans les différentes déclarations. Donc par exemple, dans les règles sectorielles, on va définir que sur un secteur, par exemple les revêtements de sol, on sait que à la fin, quand on arrive à la fin de vie d'un revêtement de sol, il y a différents scénarios qui ont été identifiés sur le marché qui sont spécifiques à cette catégorie de produits. Il peut y avoir du recyclage, il peut y avoir de la valorisation matière, il peut y avoir de l'enfouissement, etc. Et donc on va définir des règles du jeu. Et lorsque les industriels ou les fabricants de solutions vont faire ces déclarations, ils doivent respecter les règles du jeu.
Très bien. Et du coup, c'est ce qui a été fait, évidemment, déjà chez Interface. Comment on crée de la data individualisée ?
Alors en fait, si on rentre un petit peu dans le détail, aujourd'hui il existe différents types de data. La data individualisée, c'est-à-dire un industriel va faire la data spécifique à son process. Donc il va faire son propre inventaire de flux à l'échelle de son process. Mmh. Et il va comptabiliser, il va se poser la question de mon matériau, enfin ma solution, quel est son impact environnemental, quel est son Nutri-Score carbone spécifique à mon matériau. Mais il existe aussi des données collectives. Les données collectives, ça signifie que à l'échelle de l'ensemble des solutions qui existent, on va avoir par exemple une association qui va déposer, qui va faire une demande de données collectives, on va moyenner une performance qui est atteinte à l'échelle d'un ensemble de solutions. Donc on a soit données individuelles, soit données collectives, et quand vraiment on n'a aucune donnée disponible, le ministère a mis en place des données environnementales par défaut, qui sont en général assez majorées, qui sont là pour donner une très grande envie à tout le monde de créer de la donnée qui soit la plus fiable et la plus précise possible.
D'accord, on a des organismes indépendants qui travaillent aussi dessus, on peut penser à Bureau Veritas ou d'autres organismes comme...
Oui, bien sûr, quand par exemple un industriel décide de mettre en place, de faire cette fiche de déclaration environnementale et sanitaire, on va respecter la règle de sectorielle. Et puis ensuite, il y a un organisme tiers, un tiers de confiance qui va venir mettre un coup de tampon sur la déclaration qui a été faite avant que la donnée soit mise à disposition de tout le monde pour faire des calculs à l'échelle des bâtiments.
Est-ce que chez Interface, on utilise sa propre donnée ou on a besoin de ses référentiels ? Pour établir, je complète ma question, hein, pour établir ces fameuses fiches de déclaration, etc.
De toute manière, on est obligé de suivre la norme. On déclare exactement ce qui est préconisé par la norme pour pouvoir qu'on ait tous les mêmes données et qu'on parte à peu près tous sur la même base.
Mmh. Alors, on a dit, c'était désormais obligatoire avec la RE 2020 qui arrive. Là aussi, on parle d'une surcouche un petit peu réglementaire, FDES, donc ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Les EPD, est-ce que tout ça aussi correspond à un coût supplémentaire à implémenter pour les entreprises ?
Oui, en fait, ça a un coût. Si vous êtes à l'international, c'est les EPD qui fonctionnent. En France, on a effectivement créé une fiche de déclaration environnementale et sanitaire pour répondre à l'arrêt 2020. Je voulais juste préciser que pour l'instant, c'est uniquement pour la construction neuve. Mais qu'on commence à voir qu'il y a des changements de comportement et qu'on nous demande aussi des FDES pour de la rénovation. Donc c'est assez intéressant, en tout cas, en termes d'évolution sur le marché et des mentalités. Et du coup, on a donc des EPD pour... la partie globale, mondiale. Et en France, on a une fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Comme on est censé répondre à une réglementation, on doit payer à nouveau ce type de document. Et on voit que s'il n'y a pas d'harmonisation, en tout cas au niveau européen, on risque d'avoir la même chose sur chaque pays. Donc pour un industriel, ça peut représenter un coût assez important. Et il y a un autre handicap, c'est nous, on est assez gros, mais quand on est petit, payer ce type de document, ça peut devenir très cher, puisque vous en avez un par produit. Donc on peut le déclarer par famille de produits, mais du coup ça vous désavantage. En l'occurrence, nous, ça va être un poids de matériaux utilisés pour produire nos produits. Mais du coup, ça va vous désavantager parce que vous allez être dans une fourchette. Donc celui qui va se trouver en bas, il va avoir l'impact le plus fort, alors que ce sera pas ça représentera pas la réalité.
Comment on fait face, Christophe, à ce frein ? Bon, vous êtes à l'IFPEB, donc c'est une association qui représente évidemment une grande partie de ces industriels. Y a un dialogue parce que cette norme, elle est assez rapide, elle est assez brutale, et on va avoir même peut-être des sanctions à échéance 2025-2028. On sait que cette RE 2020, elle va se durcir de plus en plus.
Oui, tout à fait. Déjà, je ferai une parenthèse rapide. La RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020, en fait, elle succède à une expérimentation qui était l'expérimentation E+, C-, qui a duré 3-4 ans et qui avait vocation à apprendre à compter le carbone. Assez souvent, le législateur met en place des labels d'entraînement qui visent en fait à anticiper un peu des évolutions réglementaires. Donc ça, c'était la première parenthèse. La deuxième, la question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, que se passe-t-il si je ne fais pas de déclaration environnementale et sanitaire ? Si je fais pas de fiche de déclaration, voilà. Est-ce que j'ai une amende? Est-ce qu'il y a une sanction, etc. La réponse à la question est, c'est une logique de marché. C'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage, jusqu'à 2025, dans le cadre de la RE 2020, lorsque vous allez faire votre comptabilisation carbone, si vous prenez un matériau qui n'a pas de fiche de déclaration environnementale et sanitaire, vous allez piocher dans une donnée qui est un petit peu majorée, mais vous allez avoir une modulation pour que ça ne vous pénalise pas en tant que maître d'ouvrage.
D'accord.
Donc, finalement, vous allez vous dire entre un matériau X et un matériau Y, bah, le fait d'avoir une FDES, c'est pas décisif dans le choix du matériau. À partir de 2025, la modulation disparaît. Ça veut dire qu'un maître d'ouvrage qui hésite entre un produit X et un produit Y aura une très grande envie de plutôt opter pour une solution qui a donné lieu à une donnée individuelle qui est la plus précise possible. Et donc, pour minimiser au maximum le calcul de son impact carbone. Et après 2028, ça devient l'inverse. La modulation initiale qui était là pour neutraliser devient presque un mécanisme de pénalité, c'est-à-dire qu'on a une majoration.
On aura si un malus si on a trop de données moyennes, finalement. Si
exactement. Voilà. Et donc, c'est une logique de marché, c'est pour donner une grande envie à tout le monde de créer de la donnée individuelle.
Est-ce que c'est une particularité française, justement, comme ça, de comptabiliser le carbone dans les matériaux, cette analyse de cycle de vie dont on parle aujourd'hui?
Oui, c'est une innovation assez significative au niveau européen, c'est-à-dire l'intronisation de l'analyse de cycle de vie sur 50 ans dans une réglementation nationale. C'est quelque chose d'assez inédit à mi-niveau, au niveau européen. Mmh. Donc je crois qu'on peut, pour une fois, se dire qu'on a été très fort, on a fait une réglementation qui est très très sophistiquée. Maintenant, à nous de l'embrasser pleinement et puis de la concrétiser de façon opérationnelle.
Ouais, la prise de conscience, cette volonté politique, elle est, c'est vrai, assez en avance finalement sur même les directives européennes.
Oui, tout à fait. À savoir qu'on est quand même étudié de près, puisqu'il y a un projet qui s'appelle Building Life, qui est en tout cas mené par le Green Building Council, et qui est décliné dans chaque pays, dans une dizaine de pays, plus exactement, aujourd'hui en pilote, pour écrire ensemble une feuille de route de décarbonation du secteur. Et c'est vrai que l'arrêt 2020 et la législation française intéressent beaucoup, à savoir qu'on commence à avoir ce type d'interrogation dans les pays nordiques aussi, où on commence à s'intéresser à la partie incorporée du carbone dans les bâtiments, incorporée dans les matériaux, pardon.
Donc, cocorico, on est plutôt très innovant avec cette RE 2020, ce décret tertiaire, on le sait, une trajectoire de sobriété énergétique d'ici 2050. On sait aussi que les enjeux sont considérables. Bon, on tient le bon bout, on est dans la moyenne européenne, on est un petit peu plus en avance, on le disait, par rapport peut-être à nos voisins européens, nordiques, qui sont souvent en avance. On se situe comment, Christophe?
Déjà, les sujets sur lesquels je pense on peut se dire collectivement qu'on est en avance ou que toutes les solutions sont réunies, sur l'aspect socle réglementaire, on a une réglementation qui est très innovante, qui est plutôt en avance de phase. Donc assez souvent d'ailleurs, parfois on entend certains pays européens disent qu'ils regardent la France un peu comme un laboratoire sur certaines réglementations. Donc on fait un peu cobaye parfois. Là par exemple sur la CV, je pense qu'on va être un peu cobaye. On va voir, tous les pays nous regardent pour voir comment ça va se passer.
L'analyse du cycle de vie pour ceux qui prennent l'émission.
L'analyse de cycle de vie, merci. Donc sur la partie réglementaire, on commence à avoir un socle qui est assez sophistiqué, qui embrasse de plus en plus nos ambitions horizon moyen-long terme. Après, sur la partie solutions techniques, toutes les solutions sont disponibles aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'ensemble des travaux qu'on mène sur les sujets de décarbonation du bâtiment, même si au-delà de 2030, on commence à se poser la question de rupture technologique assez importante, en tout cas jusqu'à 2030, aujourd'hui, toutes les solutions sont disponibles et sont sur le marché. En termes de schéma contractuel, de solutions contractuelles, juridiques, financières, à nouveau, il n'y a pas d'innovation extraordinaire qui manquerait pour implémenter des projets de décarbonation. Donc je pense que l'enjeu maintenant, c'est le passage à l'action finalement. Mmh. Et nous, à l'IFPEB, on croit beaucoup à l'apprentissage par l'expérimentation, le test and learn. Finalement, faisons des projets, expérimentons et apprenons nos erreurs parfois, finalement, apprenons à parfois échouer, à apprendre et puis à accélérer finalement une nouvelle façon de faire pour reconfigurer un peu les pratiques et les marchés de chacun.
Bon, on en sait un petit peu plus justement sur cette ACV, analyse du cycle de vie. Laetitia, Laetitia Boucher, juste peut-être une question un peu plus d'actualité. On a subi pas une crise, mais plusieurs crises sanitaires. Est-ce que on a l'impression que c'est une véritable prise de conscience de la part de l'industrie sur ces sujets? Bien sûr, le politique s'en est emparé. Est-ce que pour vous, pour Interface, vous avez vu aussi une accélération, une prise de conscience de la part des clients?
Oui, il y a une vraie accélération, une vraie prise de conscience. En fin d'année, je crois que j'ai répondu à 4 ou 5 appels d'offres avec un volet environnemental qui était assez conséquent de la part d'utilisateurs finaux. Chose qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent, ou quasiment jamais, avec des questions qui deviennent de plus en plus pointues, même si on sent qu'il y a encore des tâtonnements chez certains, vraiment une volonté de co-construire ensemble. C'est-à-dire qu'on nous demande souvent un retour sur le cahier des charges, quelles questions on aurait aimé voir, etc. Donc je trouve que c'est intéressant parce que les entreprises sont vraiment en train de prendre à bras le corps cette transition. Et de toute manière, il y a une prise de conscience individuelle et collective qui va, je l'espère, nous mener dans le bon chemin.
On a également beaucoup d'innovations, notamment ce produit, parlez-nous du biocomposite que vous créez actuellement.
Oui, donc c'est ce que je vous disais, avec la mission Climate Tech Back, on a décidé de considérer le carbone comme une ressource et on s'est posé la question comment s'en servir. Et du coup, on a voulu décliner à grande échelle un produit qui allait diminuer l'impact carbone de nos produits. On a créé une nouvelle sous-couche qui s'appelle Sequest Bio, qui va avoir un biocomposite qui est à la fois composé de matériaux recyclés et biosourcés et qui va nous permettre de baisser l'empreinte carbone de nos dalles de moquette d'un tiers supplémentaire par rapport aux 76% dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, on a réussi, on l'a lancé, je me mélange dans les années parce qu'on vient de changer, mais on l'a lancé en 2020 sur des produits à forte valeur ajoutée. Et puis, malgré la crise, la pandémie, on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir le lancer à grande échelle. Et du coup, on a fait le switch total sur toutes nos sous-couches, enfin sous tous nos produits. On a mis cette nouvelle sous-couche qui nous permet de réduire l'empreinte carbone, c'est clair, d'augmenter la part de matériaux recyclés et biosourcés, et en même temps d'avoir un produit qui est complètement recyclable à 100% et de plus utiliser de bitume. Donc c'était aussi l'enjeu. Donc ça a été vraiment un produit. Une innovation dans ce sens-là.
Et qui est très appréciée, bien évidemment. D'autant que, Christophe, ce sera le mot de la fin, on a l'impression que plus que jamais, c'est nécessaire, cette prise de conscience. On a abordé effectivement peut-être ce troisième choc pétrolier, cette pénurie qu'on connaît des matériaux, cette augmentation énorme du prix de l'énergie, elle rappelle à tout le monde que la nécessité d'être beaucoup plus sobre et peut-être que le circuit court également est extrêmement pertinent aujourd'hui.
Oui, c'est clair. La question, en fait, de la pertinence économique de ces nouveaux modèles est souvent posée. Vous avez raison de le dire. Le destin, aujourd'hui, accélère quand même lourdement toutes ces prises de conscience. On a eu, fin d'année dernière et encore actuellement, une pénurie des matériaux qui a généré un certain nombre d'impacts économiques significatifs. Et c'est loin d'être terminé. Et on a entendu des maîtres d'ouvrage dire, finalement, quand je fais du réemploi de matériaux, que je prends un matériau, que je le réutilise sur le même projet ou sur le bâtiment d'en face, ça peut avoir une pertinence économique vu le prix de la matière première neuve. On a actuellement effectivement la guerre en Ukraine avec la question de notre indépendance par rapport au gaz russe, avec des évolutions, une volatilité des coûts significatifs. On a des collectivités par exemple qui ferment des piscines parce qu'ils ont une multiplication de leurs coûts de 100% jusqu'à 300%. Donc effectivement le destin actuellement nous rappelle que ces nouveaux modèles, on a un enjeu moyen terme qui est de lutter contre le réchauffement climatique, mais là vraiment le sujet n'a jamais été aussi tape à notre porte et donc il faut se mettre en action.
Et puis on remet au goût du jour, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme plus que jamais d'actualité. Un grand merci à nos deux experts du jour, Christophe Rodriguez, directeur général adjoint de l'IFPEB, l'Institut français pour la performance des bâtiments, c'est très clair, merci Christophe. Laetitia Boucher, merci, je rappelle que vous êtes responsable du développement durable Europe du Sud chez Interface. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Climate Take Back. À très bientôt.
Climate Take Back, ou comment devenir une entreprise régénératrice. Une émission en partenariat avec un